VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, opération de ratissage des forces de sécurité dans la brousse pour retrouver les deux Américains et les deux Canadiens kidnappés mardi soir dans une embuscade dans le nord du pays. Les quatre expatriés étaient en route vers la capitale fédérale Abuja depuis Kafanchan dans l'état de Kaduna lorsque des hommes armés les ont enlevés après avoir tué leur escorte policière près de Djere sur l'axe Kaduna-Abuja où les enlèvements sont fréquents. « Nous sommes sur le coup et nous avons réalisé des avancées dans l'enquête », a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat un haut responsable de l'armée nigériane. Selon lui, une force spéciale a été envoyée d'Abuja et s'est associée à l'équipe qui est déjà sur place pour les recherches en cours. Les quatre expatriés, dont les identités n'ont pas été dévoilées pour raisons de sécurité, étaient en voyage d'affaires. Les autorités américaines et canadiennes ont seulement indiqué travailler avec les autorités nigérianes pour les retrouver. Le département d'État américain a demandé aux ressortissants des États-Unis de reconsidérer leur déplacement au Nigeria. Washington les a mis en garde contre les crimes violents tels que les attaques armées et kidnappings qui sont communs à travers le pays. Au Ghana, le président ghanéen Nana Akufo-Addo assure que son pays va rester vigilant suite à l'arrestation d'hommes armés détenant des grenades à Accra, la capitale. Le point avec Raissa Girondin.
Après l'ouverture d'une enquête concernant la découverte d'explosifs dans la capitale Accra, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a promis de renforcer la vigilance face aux éventuelles menaces terroristes. Cela passera notamment par le renforcement des services de renseignement et de sécurité. Trois hommes, dont la nationalité n'a pas été révélée, ont été arrêtés en possession de grenades en début de semaine et placés en détention provisoire à Accra. Ils doivent comparaître le 30 janvier. Les enquêteurs recherchent les alliés éventuels du trio à l'intérieur et à l'extérieur du pays, jusque-là épargné par les attaques terroristes. Le président Nana Akufo-Addo a déclaré « Le Ghana est en sécurité et promet de tout faire pour que cette réalité continue ». En effet, les mesures de sécurité avaient été renforcées en avril 2016 après un avertissement selon lequel le Ghana et le Togo voisin pourraient être la cible d'attentats islamistes.
Sénégal, la garde à vue a été prolongée pour 22 Sénégalais appréhendés dimanche dans l'enquête sur le massacre de 14 personnes en Casamance. Ces personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la tuerie du 6 janvier qui a coûté la vie à 14 jeunes gens dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor, principale ville de la Casamance, une région bordée au nord par la Gambie et au sud par la Guinée-Bissau. Au Tchad, Mariam Djimet Ibet, maire de N'Djamena, et deux de ses adjoints suspendus par le gouvernement pour mauvaise gestion des finances de la mairie. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP une source proche de la mairie de la capitale tchadienne. Selon cet employé de la mairie, Madame Djimet Ibet aurait procédé à des recrutements fantaisistes depuis son arrivée à la tête de la mairie en novembre 2016. Une mission de contrôle de l'État avait décelé en 2017 plusieurs malversations financières. Et à la mi-janvier, le ministère tchadien des Finances et du Budget a dépêché à la mairie une mission d'inspection pour procéder à un contrôle du personnel et vérifier le nombre et les identités des employés. Le Tchad a été classé par l'ONG Transparency International 159e sur 176 dans l'indice de la perception de la corruption en 2016. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, convoqué comme témoin par la justice et interdit de quitter le territoire pour les besoins d'enquête, a déposé une requête devant la cour d'appel de Libreville, jugeant illégal d'avoir été empêché de quitter le pays ce week-end. Samedi dernier, tandis qu'il devait s'envoler vers la France, M. Ping a été stoppé par les forces de sécurité et empêché d'entrer dans l'aéroport en raison d'une interdiction de sortie du territoire demandée par le juge d'instruction pour les besoins de l'enquête. Convoqué mercredi par le juge d'instruction comme témoin concernant l'enquête sur un opposant arrêté et inculpé en septembre pour complot contre l'autorité de l'État, l'opposant Jean Ping ne s'est pas rendu devant le juge. Au Congo-Brazzaville, le gouvernement et les ex-rebelles du Pôle ont eu des consultations hier pour la première fois dans la capitale pour l'application d'un accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre 2017. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est arrivé, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Raymond Zéphirin Mboulou, lançant les travaux de la commission paritaire. Les représentants du gouvernement et ceux du pasteur Tata Ntoumi vont, entre autres, débattre du sort réservé aux chefs rebelles, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt. Ils vont aussi élaborer un calendrier pour l'application de l'accord de paix signé le 23 décembre dernier. Selon cet accord, l'ex-rébellion s'engage à faciliter le ramassage des armes détenues par ses ex-combattants et permettre la réinstallation de l'État et des populations dans le pool. Elle devrait aussi y faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Pour sa part, le gouvernement se dit garant du processus de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants. Les affrontements depuis la réélection du président Denis Sassou Nguesso en avril 2016 ont mis 138 000 personnes en situation humanitaire difficile. Les violences ont aussi entraîné l'arrêt de l'exploitation du chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Zimbabwe, des élections auront lieu dans un délai de 4 à 5 mois dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le nouveau président Emmerson Mnangagwa, cité ce jeudi par le quotidien Herald. Il s'agira du premier scrutin organisé sans Robert Mugabe depuis l'indépendance de l'ex-colonie britannique en 1980. Nous ferons en sorte que le Zimbabwe produise des élections libres, crédibles, équitables et indiscutables afin que le pays s'engage en tant qu'État démocratique qualifié, a souligné le nouvel homme fort d'Harare. Ce scrutin sera suivi de près par la communauté internationale qui en a fait un test de crédibilité crucial pour le déblocage de l'aide financière. L'UNRWA, l'agence onusienne de secours aux réfugiés palestiniens, fait face à sa crise financière la plus grave depuis 1949, année de sa création. Motif, le coup dur porté par l'annonce par les États-Unis d'un gel de leur aide à cet organisme de l'ONU. L'UNRWA porte secours et assistance à une grande partie des plus de 5 millions de Palestiniens enregistrés comme réfugiés dans les territoires palestiniens, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Pour un éclairage, Claire Morin-Gibault a joint le chercheur de l'Institut français du Proche-Orient basé à Amman, Jalal al-Husseini.
Ça fait partie de la nouvelle orientation de l'administration Trump, qui est de prendre des décisions assez nettes et tranchantes qui visent à résoudre le plus rapidement possible le conflit israélo-palestinien. Mais là, dans un sens qui pousse les thèses israéliennes, c'est-à-dire, on l'a vu il y a quelques semaines, donc reconnaissance de Jérusalem comme la capitale de l'État israélien. Et là, on s'attaque à la question des réfugiés, s'attaquant à l'UNRWA. Donc, il s'agit de la question cruciale de la contribution budgétaire des États-Unis au budget de l'UNRWA.
Concrètement, comment cela va-t-il se ressentir sur le terrain?
Eh bien, déjà, l'UNRWA a pris quelques mesures. Vous savez que l'UNRWA, d'abord, est une agence temporaire et 95% de son budget est financé par des contributions volontaires des États de la communauté internationale. Et donc, cela l'expose, l'a toujours exposé à des crises financières. Ce n'est pas la première. Mais cette fois-ci, elle est très importante, vu que là, vraiment, les États-Unis ont coupé de moitié leur contribution. Alors, ce qu'a fait l'UNRWA, c'est ce qu'elle a fait durant les autres crises. On commence par supprimer les travailleurs temporaires de l'UNRWA, par exemple, et donc déjà de nombreux postes d'enseignants, de travailleurs dans les camps de réfugiés pour la maintenance, etc., ces postes ont été supprimés, et d'autres postes seraient supprimés. Pour l'instant, disons, le fonctionnement, les écoles fonctionnent encore, hein, le staff permanent est toujours en place. Pour l'instant. Et donc, l'UNRWA n'a que d'autres choix pour l'instant, soit de faire pression sur les États-Unis de façon à ce qu'ils reviennent sur sa décision, ou alors de chercher plus d'argent des autres contributeurs volontaires, notamment de l'Union européenne, ou alors des pays arabes, et en particulier des pays arabes du Golfe, qui n'ont pas été des grands financiers de l'UNRWA jusqu'ici. Donc, on pourrait leur demander un peu de mettre plus d'argent à contribution.
Est-ce que pour vous, cela peut envenimer le conflit israélo-palestinien?
Oui. Alors, vous voyez, l'UNRWA a deux dimensions. Donc, une dimension opérationnelle, c'est la question des services. Et puis, l'UNRWA est devenu, hein, depuis des décennies maintenant, le symbole de la responsabilité onusienne, de la responsabilité des États de résoudre le problème des réfugiés de manière juste. Et pour les pays arabes, c'est la résolution 194 qui stipule que les réfugiés devraient soit avoir le droit de retourner à leur maison d'origine ou alors de recevoir une compensation. Donc s'attaquer à l'UNRWA ici, cela signifie déjà vouloir enterrer la question des réfugiés avant qu'elle soit négociée. Et c'est ça qui est en jeu également. Donc cela risque d'envenimer la situation et on risque d'avoir dans ces prochaines semaines, si les États-Unis ne reviennent pas sur leur décision, eh bien on risque d'avoir des écoles qui ferment, des dispensaires qui ferment et donc on risque d'avoir des manifestations et des troubles dans la région.
Jalal al-Husseini, chercheur à l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, basé à Amman. Il était joint par Claire Morin-Gibourg. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.